Vous écoutez France Culture.
Eldon, je crois que demain tu devrais venir avec moi au travail. Et ensuite on irait pique-niquer dans le parc, hein?
Est-ce qu'il y a un panier à ton travail?
Un quoi?
Pour le basket. Je ferai les matchs inter-école cette année.
Ce serait bien étonnant, mon petit.
Il y en a un dans le parc, hein, maman?
Je pense que oui.
Mais pas pour toi.
Et pourquoi?
Parce qu'il est pour les Blancs.
Vous êtes sérieux?
Bien sûr que je suis sérieux.
Et qu'est-ce qu'ils feront si je décide de m'en servir?
Ils te font sortir de force.
Et si je ne veux pas m'en aller?
Eh bien, mon garçon, ils te feront arrêter.
C'est ce que vous croyez?
Ah non, ça j'en suis sûr. Écoute, mon garçon.
Il est l'heure d'apporter le gâteau, non?
C'est une bonne idée.
On n'a pas les chapeaux.
Benoît Lagan.
Eric Vera.
Série télé.
L'Amérique en 24 épisodes.
Ce soir, épisode 8.
Les années 70, minorité visible. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué Star Trek, mais aussi les Envahisseurs, deux séries qui évoquaient les préoccupations de leur époque. Alors pourquoi ça fait parfaitement le lien avec le sujet du jour, les minorités visibles, hein ? Parce que dans le cas de Star Trek, on va assister au premier baiser interracial de l'histoire de la télé. Hein. Kirk et Aurora s'embrassent, une scène censurée dans une bonne partie des États américains, où la ségrégation n'était pas encore très loin dans les esprits et même dans les faits. Et puis dans le cas des Envahisseurs, la série va traiter à travers son ambiance très lourde de la méfiance des Américains envers l'État, à une époque où l'on a encore du mal à digérer les tragiques disparitions des frères Kennedy. Voilà le contexte.
Alors Les Envahisseurs, c'est une série produite par Quinn Martin. Quinn Martin est l'un des plus importants créateurs des années 60 et 70, à qui l'on doit en particulier une autre série majeure diffusée entre 63 et 67 sur ABC, et qui relate la course-poursuite la plus populaire de la télévision américaine. Eric, c'est le
Fugitif, monsieur.
Voilà, cette série importante puisqu'elle peint une certaine réalité de l'Amérique. À l'époque, on a essentiellement des flics évoluant dans des villes ou alors des agents secrets qui nous transportent un peu partout dans le monde. Et le pari que font Roy Huggins, le créateur du Fugitif, et le producteur Quinn Martin, c'est de raconter une histoire sur un territoire qui n'a rien d'exotique, celui de l'Amérique profonde. Parce qu'en gros, Kimball, pour rappeler un petit peu l'histoire, est soupçonné d'avoir tué son épouse et doit, pour éviter la chaise électrique, s'échapper. Il est alors poursuivi par le lieutenant Gérard. Lorsqu'on regarde aujourd'hui cette série, on ne se rend pas du tout compte de ce qu'elle pouvait véhiculer à l'époque. D'abord, montrer une justice défaillante était assez culottée dans les années 60. Ensuite, avec le Fugitif, les auteurs n'hésitent pas à montrer l'Amérique profonde vraiment telle qu'elle est, dans sa pluralité économique, sociale et bien évidemment ethnique. De plus, Kimball étant recherché, incompris et rejeté, il devient un petit peu le confident et le soutien de l'Amérique des laissés pour compte. Cette série donc n'hésite pas à aborder des sujets difficiles comme le chômage ou la déstructuration sociale. C'est une grande série, un grand témoin de son temps. Si on devait dresser la liste des séries qui abordent de près ou de loin des sujets brûlants, des séries qui portent un regard critique ou acide sur la politique et la société américaine dans les années 60 et 70, eh bien on listerait essentiellement, Eric, des comédies. Je pense par exemple à Mary Tyler Moore, qui aborde de front la libération des femmes, mais on va y revenir dans un instant. Le Vietnam, qui est aussi dans l'actualité à ce moment-là, finalement on l'aborde de manière un petit peu détournée.
Oui, tout à fait, grâce à la série MASH. Hein. Donc, bon, faut quand même bien dire que la télévision, à cette époque, ça reste quand même un outil aux mains des publicitaires. Donc, conséquence, on tente d'en dire le moins possible sur les sujets prêtant à discussion. Et c'est vrai que le Vietnam, durant cette décennie 70, bah, c'est vraiment un sujet brûlant de taille. Quoi. Donc, on voit avec MASH, hein, donc série dérivée du film d'Altman, lui-même dérivé d'un roman témoignage sur la période de la guerre de Corée, que la télévision va oser parler de, en fait, de choses extrêmement délicate hein, avec cette série. Ça se passe pendant la guerre de Corée, mais personne n'est dupe. En fait, bien sûr, les images de la série rentrent en résonance avec les body bags hein, qu'on voit dans les news tous les soirs. Donc ça rentre en résonance avec cette actualité très sombre de la guerre du Vietnam. Alors, la série elle-même, elle lutte un petit peu, je dirais, contre l'absurdité de la guerre. Et puis aussi contre les décisions un petit peu stupides parfois du gouvernement de l'époque. Et ça aussi, c'est nouveau quand même. Taper comme ça sur le gouvernement, c'était pas si courant. Alors MASH est une série qui va durer 11 saisons et qui va influencer bon nombre de comédies. Et bon, pour la petite histoire, elle se termine par un grand final de 2h30 qui va être suivi par des dizaines et des dizaines de millions de téléspectateurs. Un petit peu comme... toutes les grandes séries, on s'attend à un final...
exceptionnel.
Voilà. Et Le Fugitif, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, c'était le cas. This armored convoy is trying to move out of the area we were just sweeping through. One of the tanks has been hit. And the Viet Cong has opened fire on the convoy. We're now firing back and have asked rare support. This way, across the way, half the time. Still, in South Vietnam, we try to bomb convoys. Dan Rather, CBS News, with the 1st and the 16th, 1st Division, take a touch of power, South Vietnam.
C'est une série donc, qui commence en novembre 72, donc les Américains sont encore au Vietnam à ce moment-là.
Marjolaine Boutet, historienne.
Elle arrive à ce moment-là parce que de toute façon, les années 70 sont hantées par la guerre du Vietnam, que ce soit au cinéma ou à la télévision. À la télévision, on commence à parler quand même des vétérans de la guerre du Vietnam, notamment une grande série policière des années 70, c'est Kojak. Et Kojak, donc, est un flic empathique, a souvent des démêlés avec des anciens combattants du Vietnam traumatisés qui sont tombés dans la drogue. Enfin, on a vraiment cette image récurrente de l'ancien combattant traumatisé qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec les vétérans de la guerre en Irak. Et le parallèle est vraiment très intéressant à voir et il est fait d'ailleurs dans certaines séries entre la guerre du Vietnam et la guerre en Irak et ces anciens combattants qui reviennent donc d'une guerre dont personne ne veut et qui sont laissés livrés à eux-mêmes et laissés au banc de la société. Et donc là, vraiment, il y a un parallèle entre les années 70 et les années 2000 qui est très clair.
Corée, 1950. Il y a des années-lumière.
Donc, pour revenir à MASH, ce qui fait l'intérêt de MASH, c'est qu'on sort de cette noirceur, on sort de cette paranoïa, on sort de cette peur de l'ancien combattant pour avoir une série légère, comique, qui marche et qui permet, là encore, de respirer un petit peu au sein de cette période assez lourde.
Danger, champ de mine.
Y a quelqu'un ?
Il va y avoir une alerte !
J'entends rien ?
Et ils vont pas tarder !
Donc si le Vietnam commence à apparaître de manière déguisée à la télévision dans ses séries humoristiques comme MASH, quelques années plus tôt, au tout début de la décennie, en 1970, avec une sitcom méconnue en France, la comédienne Marie Tyler Moore et le producteur-créateur James L. Brooks allaient jouer également à leur tour un rôle important dans l'histoire de la place des femmes à la télé. Alors pendant 7 ans, de 1970 à 1977, Marie Tyler Moore va imposer à l'écran un personnage féminin, Marie Richards, femme célibataire, qui à la suite d'une rupture décide de prendre sa vie en main et de s'imposer dans un monde d'hommes au sein de l'équipe d'un journal télévisé. I love the east, I love the west, and north or south, they're both the best. But I'll only go there as a guest, 'cause I love being here. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, il est difficile de s'imaginer aujourd'hui l'impact que les séries de l'époque pouvaient avoir dans la société américaine. Alors pour se rendre un peu mieux compte de ce qu'était la vie d'une femme au foyer avant l'arrivée du MLF, il faut Pour plus de justesse, se rapporter aujourd'hui à de très belles séries contemporaines qui décrivent chacune à leur manière ce que les créateurs de l'époque n'auraient jamais osé aborder dans une série.
Oui, vous pensez peut-être à Mad Men, par exemple, hein, la série programmée sur la chaîne AMC aux États-Unis, qui raconte plutôt bien d'ailleurs les coulisses du monde de la publicité dans les années 50. Et c'est une série qui s'attache beaucoup à la peinture de la société américaine de l'époque, une société où la femme est très souvent traitée comme un objet. Hein. Donc là, les secrétaires, par exemple, sont corvéables à merci, et je ne parle pas que des tâches administratives. La femme mariée tient son foyer. Hein. Tout est rangé, bien propre. Et puis toutes les autres, hein, que ce soit les clientes un peu richissimes, les maîtresses, les voisines divorcées, elles sont toutes considérées comme des éléments perturbateurs. Elles ne sont pas à leur place dans cette société où tout doit être bien lisse. Et donc la série Mad Men, en fait, restitue vraiment très très bien cette ambiance.
Alors il y a aussi, par exemple, cette trop courte série de 3 saisons seulement, American Dreams, dont nous avions parlé lors de notre premier épisode. Alors, pour en parler avec nous, nous avons rencontré Marjolaine Boutet, historienne à Sciences Po et co-auteure de l'année des séries.
Dans la mémoire américaine, leur âge d'or, c'est plus les années 50 que les années 60. Les années 50, c'est la période Happy Days, qui est une série des années 70, mais c'est vraiment cette période où l'Amérique ne doutait pas d'elle-même, où elle était, donc elle avait gagné la Seconde Guerre mondiale, on était en pleine guerre froide, mais ça unissait vraiment, c'était le paradis de la banlieue, avec la femme à la maison qui faisait la cuisine, le papa qui rentrait, la voiture, les 3 enfants. C'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans The Wonder Years, les années coup de cœur en français, qui est une série qui retrace donc, cette vie-là, cette vie urbaine. Par contre, les années 60, c'est davantage dans les productions aujourd'hui qui en parlent, comme American Dreams et Mad Men récemment. On va davantage s'intéresser aux problèmes de cette époque, qui est donc une décennie de bouleversements sociaux. L'Amérique se rend compte qu'elle est multiculturelle, les femmes commencent à travailler, les jeunes commencent à contester l'autorité des parents, il y a la libération sexuelle, enfin, évidemment la guerre du Vietnam aussi, qui est un traumatisme important pour la population. Donc toute cette période de changement intéresse, je pense, beaucoup les Américains d'aujourd'hui, parce que depuis le 11 septembre 2001, l'Amérique se remet à douter d'elle-même. Et donc je pense qu'il y a un parallèle entre ces deux époques qui est intéressant. Et puis aussi, il faut bien le dire, la musique des années 60 qui continue à plaire aujourd'hui et qui est aussi un fort produit d'appel pour les téléspectateurs. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do I do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. La mère dans American Dreams, elle a à peu près la même évolution que la mère dans The Wonder Years, qui est une série qui a 20 ans de moins. C'est le personnage de la femme au foyer qui va commencer à travailler, qui va commencer à accéder à l'indépendance financière. Et en plus, dans American Dreams, elle a cette particularité d'être catholique. Et dans les années 60, d'abord les femmes mariées, puis toutes les femmes vont avoir accès à la contraception. Et je crois que c'est dans le tout premier épisode d'American Dreams, on voit donc cette femme qui a déjà 4 enfants, qui n'a pas très envie d'en avoir un 5e, aller consulter son gynécologue donc pour avoir la pilule. Dans Mad Men aussi, dans les tout premiers épisodes, il y a la secrétaire donc qui va demander la pilule. Et bien évidemment, enfin, la contraception, ça change la vie des femmes. Le contrôle de son corps, de ses grossesses et de sa sexualité, c'est quand même... Donc bien évidemment, ça reflète la réalité de la vie des femmes à cette époque-là. Le fait qu'elles se mettent à travailler en masse, et c'est plus lié à des périodes très circonscrites et très particulières comme les guerres, puisque les femmes américaines ont énormément travaillé pendant la Première Guerre mondiale et encore plus pendant la Seconde, mais à la fin des guerres, elles revenaient à la maison pour s'occuper du mari qui était revenu. Là, elles se mettent vraiment à avoir un deuxième salaire, à avoir une carrière, et ça crée évidemment des conflits entre les couples, puisque l'équilibre s'en trouve rompu, et ça permet aussi l'augmentation du nombre de divorces, parce que de fait, à partir du moment où elles sont indépendantes financièrement, à partir du moment où elles commencent à s'affirmer et à sortir de la maison, eh ben, les choses changent et beaucoup de couples n'ont pas résisté à ça. Et c'est ce que montre d'ailleurs une très très belle série historique qui est Cold Case, et qui est une série vraiment qui parle à de très très nombreuses reprises de l'émancipation féminine et de cette évolution, de ce changement radical de l'équilibre au sein de la famille.
Et maintenant, on va se coucher.
Mais regarde la cuisine, il faut quand même que je la range un peu.
Demain, non.
C'est ce que tu as déjà dit hier soir.
Ah oui, c'est grave ça. Dépêche-toi, chérie, je t'attends.
Voilà une bonne chose de faite.
Samantha de Ma Sorcière Bien-Aimée est une femme qui a du pouvoir, mais qui a du pouvoir au sein de sa maison. Qui a du pouvoir sur l'organisation de la famille, sur ce qu'elle va faire à manger à son mari, sur les faveurs sexuelles qu'elle va lui accorder ou pas, mais elle reste dans le cadre de la maison. Elle ne sort pas, elle a une indépendance toute relative en fait. Elle n'a pas d'indépendance financière, elle ne travaille pas. Donc ça reste quand même très très, à mon sens, encore très conservateur comme organisation familiale. Une femme, il faut pas croire qu'une femme au foyer soit forcément soumise. C'est pas la question. Les femmes qui mènent leur mari par le bout de leur nez, ça a toujours existé et ça existera toujours. C'est pas la question. La question, c'est quelle est la place des femmes dans la société. Est-ce que c'est une place dans le cadre familial, au sein du foyer, ou est-ce que c'est une place dans la société au même titre que les hommes et en interaction d'égal à égal? Ça, c'est, voilà, c'est... La télévision, de toute façon, elle précède pas les mouvements de société, elle les accompagne ou elle les suit. Elle en est le révélateur, la chambre de répercussion, mais elle ne provoque pas des changements sociaux.
Le mouvement des droits civiques sera l'un des grands chantiers de l'Amérique de l'après-guerre. Alors, on parle souvent de grands épisodes de cette guerre contre l'intolérance. Et le climat de racisme et de ségrégationnisme se retrouvera jusque dans les séries des années 70. Alors, deux exemples, par exemple celui du générique de la série policière Barretta, dont le thème du générique doit être interprété à l'époque par le crooner américain Sammy Davis Jr., mais que finalement ABC n'approuve pas pour ne pas froisser les susceptibilités des États sudistes, où la question de l'égalité entre races est toujours un sujet brûlant à cette époque. Barretta, c'est quand même 73. Bon, alors la revanche intervient quand Robert Blake, la star de la série, donc le fameux Barretta, remet carrément en cause sa participation à l'émission en disant « Si Sammy Davis Jr. Ne chante pas, moi je ne joue plus dans la deuxième saison. » Alors bien sûr, on pourrait dire que la question des minorités à l'écran, les minorités visibles, avait déjà réalisé des avancées quand en 65, Bill Cosby, pour la série I Spy, Les Espions, devient la première star noire de la série télé. Au cinéma, on a déjà eu Sidney Poitier ou Harry Belafonte qui ouvre la voie. Puis il y a eu Les Bannis, 3 ans plus tard.
J'y reviendrai.
C'est beaucoup et puis c'est peu à la fois. Et d'ailleurs, la question de la visibilité des minorités, c'est toujours un problème dans les séries américaines actuelles. Le développement de nouvelles chaînes de télé, finalement, va être aussi l'occasion de créer des séries destinées à un public black ou à un public latino. Mais on va y revenir un peu plus tard.
Alors, I Spy avec Bill Cosby, c'est en 1965. 3 ans après, donc NBC cherche à mettre en scène un cow-boy mais un cow-boy noir dans une série western. Cette série sera Les Bannis et raconte les aventures de deux chasseurs de primes que tout sépare. Un homme un petit peu à la dérive, ancien propriétaire d'esclaves, Earl Corey, qui, après la guerre de sécession, devient tueur à gages, et puis son partenaire, un ancien esclave noir, Jemal David. Alors cette série, elle est originale, mais elle ne dure qu'une seule saison. Elle est quand même très révélatrice de ce qui se passe aux États-Unis à la fin des années 60, car elle présente deux personnages bannis de la société parce que noirs pour Jemal ou alors vétérans mal dans sa peau pour Corey. C'est une série qu'il ne faut pas l'oublier, est diffusée qu'en 1968 et à l'époque on est en plein dans la lutte pour les droits civiques et bien évidemment c'est la guerre au Vietnam et les premiers retours des vétérans un petit peu cassés par ce conflit.
Au cours des 10 années qui suivirent la guerre de sécession, des gens de toute religion et de toute couleur se retrouvèrent dans l'Ouest. Voici l'histoire de deux de ces hommes.
Qu'est-ce que tu fabriques ? T'as pas encore terminé ta ronde ?
Non, j'ai bavardé avec le petit. Un gentil garçon.
On nous paie pour faire cesser leurs embêtements, pas pour en créer d'autres.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Tu ne cesses d'encourager ce petit, il va passer son temps à nous coller aux fesses. Vouloir venir à cheval avec nous, tu vas voir ça. T'as vu comme il a gardé nos armes ?
Non, tu es dans l'erreur. Il s'intéresse à notre façon de vivre, c'est tout. Il casse du bois à longueur de journée. Il s'ennuie, bien sûr. Il est seul, il n'a personne à qui parler.
Comment sais-tu ce dont il a besoin ?
Je le sais parce que j'avais besoin de la même chose que lui. Blanc ou noir, fils de patron ou travailleur, c'est pareil. Être libre, il n'y a que ça qui compte. Je m'en vais faire ma ronde à présent, monsieur Corey.
Alors, Marjolaine Boutet et Cyril Rollet, tous deux universitaires, évoquent pour nous l'histoire de la place des Noirs à la télévision.
Il y a toujours eu des Noirs dans les séries américaines, donc c'est pas une surprise de voir des Noirs à la télévision. Simplement, ce qui change progressivement, c'est qu'ils sont de moins en moins cantonnés dans des rôles stéréotypés d'employés de maison, de chauffeurs, de criminels. Mais ils sont de plus en plus les partenaires, donc ils sont flics, ils ont des emplois de plus en plus diversifiés et se défont progressivement tous les stéréotypes. Aujourd'hui, dans n'importe quelle série américaine, effectivement, on a un acteur noir, mais qui a un rôle qui va bien au-delà de sa couleur de peau et auquel il est fait référence, mais de façon relativement anecdotique. Enfin, c'est plus un problème. Par contre, il y a d'autres minorités qui sont ignorées assez largement, comme les Latinos et encore plus les Asiatiques, qui restent vraiment très cantonnés à des stéréotypes encore aujourd'hui, et notamment dans les années 70-80, où il y a la peur, évidemment, des Chinois, des Vietnamiens, et on a des personnages très stéréotypés de l'Asiatique, un peu insaisissable, très cruel. Voilà, donc ça, c'est des choses qui se sont mises en place plus lentement à la télévision que dans la société elle-même.
You are blue, you are blue. Tell everybody around the place I is blue. Hello, King Peace, come on in. Well, there's Andy sleep again. Andy, wake up. Andy.
Where's your taxicab company? President speaking.
Andy, wake up. The phone ain't ringing. You asleep.
I ain't been asleep.
Alors, Amos and Andy, c'était au départ un sitcom radiophonique lié au minstrel, c'est-à-dire une forme de spectacle où des blancs étaient grimés en noir, en les parodiant. Aujourd'hui, on trouverait ça absolument insupportable. D'ailleurs, Spike Lee en avait fait un film pour le dénoncer il y a une dizaine d'années. Ensuite, quand ça s'est passé à la télé, ce sont des noirs qui reprennent le rôle qui était généralement dévolu aux blancs. Donc on passait encore à quelque chose d'autre. Et tout au long des années 50, en fait, dans un sitcom qui s'appelle Beulah aussi, où vous retrouvez le personnage de la boniche noire chez les blancs, donc avec son franc-parler, mais en même temps, chacun était à sa place. Et les choses commencent à changer à la fin des années 60 avec deux sitcoms, hein, qui s'appellent Julia et un autre qui s'appelle Bill Cosby Show, qui n'a rien à voir avec le Cosby Show qu'on connaît en France, qui est la première mouture en fait d'un sitcom de Cosby, et dans lequel les Noirs sont représentés en tant que famille. Parce que jusque-là, les valeurs traditionnelles de la famille, c'était généralement la famille blanche. Et à partir des années 70, on commence à voir arriver des familles noires, et c'est notamment Norman Lear qui va changer la donne, et pas d'une manière totalement démagogique, comme on pourrait le croire, puisque la force des sitcoms de Norman Lear, c'est que les personnages sont construits avec des tensions intérieures qui sont relativement fortes pour éviter de ressembler à des clichés. Donc vous avez The Jeffersons, qui est une moquerie des parvenus noirs, enfin d'une bourgeoisie noire qui parvient à la réussite sociale et à la réussite économique. Vous avez au contraire Good Times, qui est une série sur des noirs défavorisés de Chicago, et là la question véritablement de la pauvreté est mise vraiment au devant de la scène, sans pour autant faire abstraction de leurs défauts. Ils sont des défauts réels, comme par exemple une certaine violence dans le personnage du père. Violence qui est toute nouvelle dans les sitcoms, parce que les pères de sitcoms, par définition, ils sont débonnaires. Donc il ne s'agit pas non plus de jouer les bons noirs contre les mauvais blancs. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et ensuite, les choses évolueront, puisque quand le sitcom va s'émousser à la fin des années 70, les noirs reviendront justement par Cosby, et ils reviendront d'une manière éclatante, puisque Cosby Show, c'est à la fois la plus grande réussite du sitcom des années 80, et ça se fait par le biais d'une famille noire. Mais une famille noire qui, cette fois, ressemble tellement aux familles blanches des années 50 qu'elle n'a pas forcément été validée par l'ensemble de la communauté noire, qui les ont traités d'Oreo, c'est-à-dire comme le fameux biscuit qui était noir à l'extérieur, mais qui était blanche à l'intérieur.
Parmi les séries, Eric, qui vont permettre à la communauté noire d'être plus visible encore à la télévision, il ne faudrait simplement pas oublier de parler de Racine, qui est diffusée en 1977 sous la forme de 6 épisodes de 90 minutes. Cette saga historique, qui retrace l'histoire d'une famille d'esclaves sur 7 générations, va bouleverser l'Amérique et devenir un classique de l'histoire de la télévision américaine.
Moi, je travaille en ce moment sur les manuels scolaires américains et très clairement dans les manuels des années 60. Dans les préfaces, dans ce qu'on raconte aux enfants, on dit oui, il faut réfléchir à la place des États-Unis dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'émergence du tiers-monde et que le tiers-monde devient un enjeu de la guerre froide. Et donc, il faut que les États-Unis apparaissent comme attractifs face aux pays africains et asiatiques. Et c'est aussi pour ça, il y a une thèse récente là-dessus qui montre bien que le mouvement des minorités civiles, et notamment l'accession à la minorité noire à plus de droits, vient en grande partie aussi de cette envie des États-Unis d'avoir une image plus lisse, plus attractive vis-à-vis de ces pays émergents, de ces pays en développement, de ces nouveaux pays qui deviennent des enjeux, on peut dire de l'impérialisme américain, mais en tout cas, en période de guerre froide, effectivement, on préfère qu'ils tombent dans le clan capitaliste que dans le clan communiste. Mais ces enjeux se retrouvent encore aussi aujourd'hui. Là, les élections Obama, etc., représentent un espoir de changer l'image des États-Unis face, encore une fois, à ce qu'on peut encore appeler le tiers-monde, qui est de plus en plus turbulent et qui rejette de plus en plus fortement la domination américaine. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
Nous l'évoquions tout à l'heure, l'apparition des minorités à la télé, elle va se faire dans un premier temps de manière anecdotique, et puis il va y avoir un second souffle, c'est cette période où de nouvelles chaînes se créent. Alors très concrètement, quand le réseau Fox se crée, le quatrième grand network américain, il y a immédiatement une soirée ethnique dans sa grille de programme. Alors c'est là que se créeront des séries comme Martin, par exemple avec le comique Martin Lawrence. Les soirées black, on en trouvera aussi sur UPN, nouveau petit network qui sera créé à la fin des années 90, début des années 2000. Et puis, alors Showtime, chaîne câblée, elle, par exemple, va se concentrer sur le public homosexuel en créant deux séries très connues, The L Word et puis Queer as Folk. Aujourd'hui, la télévision américaine, elle essaie de combler l'écart entre l'importance des personnages blancs qui sont encore, faut l'avouer, omniprésents. Il s'agit un peu de combler d'un côté la réalité à l'écran, puis de l'autre la réalité démographique.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes, une émission de Benoît Lagan et Éric Véra. Prise de son, Pierre Mine. Mixage, Pierre Monteil. Réalisation, Lionel Quentin. Retrouvez des compléments, biblios, liens, références de DVD sur franceculture.com à la page de notre émission. Et puis prolongez l'aventure avec Générique, le magazine de la culture série. Demain, épisode 9, la famille dans tous ses états. Bonne nuit. Il est 23h sur France Culture, retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks, mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.